7h en temps universel, 10h à Paris. Merci d'écouter RFI. Merci d'être avec nous. Et on vient de l'apprendre, hein. Le pape François est décédé. C'est ce qu'annonce ce lundi matin le Vatican dans une déclaration vidéo. Mais évidemment, nous allons en parler tout au long de la journée sur la radio du Monde. Et on débute avec le journal présenté par Marion Cazeneuve. Bonjour Marion.
Bonjour Namoury, bonjour à tous. Le Vatican vient donc de l'annoncer, la mort du pape François à 88 ans. RFI passe en édition spéciale juste après ce journal. Les catholiques du monde entier en deuil. Le Vatican vient de l'annoncer, la mort du pape François ce matin à 88 ans. Il a fait sa dernière apparition en public hier pour Pâques, où il avait fait sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi au balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican. L'Argentin avait été élu à la surprise générale en 2013 et avait axé son pontificat sur l'environnement, la défense des migrants. Retour sur les faits marquants de ce pontificat avec notre correspondant au Vatican, Éric Sénanque.
Le 13 mars 2013, lorsqu'il est devenu le 266e pape de l'histoire, François a surpris par ses premiers mots lancés du balcon de la basilique Saint-Pierre « Bonsoir ». Un salut qui préfigura la simplicité de ce pape argentin. Celui qui a choisi pour nom le Saint d'Assise refuse de loger sous les ors du palais apostolique et cherche le contact avec le peuple. Durant ses années de pontificat, il ne cessera d'exhorter les responsables de l'Église à avoir l'odeur de leur brebis, une manière de se mettre à la hauteur de n'importe quel fidèle. Car c'est sans doute là l'une des grandes révolutions de son pontificat, celle de remettre l'Église, parfois hautaine et déconnectée, au service des fidèles en la faisant descendre de son piédestal. C'est donc en partant de la base que François souhaite réformer l'Église, ne l'épargnant pas de ses jugements, mondaines ou déconnectés, des critiques qui lui vaudront de nombreuses inimitiés à l'intérieur même de l'Église. Et durant son pontificat, l'Argentin aura aussi déployé de nombreuses thématiques pour faire de l'Église un acteur prépondérant dans la communauté internationale, comme la défense de l'environnement ou celle des migrants. Pape des périphéries, comme il aime les appeler, il a rendu une église visible auprès des plus vulnérables, n'hésitant pas à se rendre de nombreuses fois en prison ou rencontrant des peuples autochtones sur de nombreux continents. Pas toujours maître de son verbe, François se sera aussi heurté aux lourdeurs d'une église-institution qui peine à se réformer, malgré sa volonté d'insuffler un nouveau dynamisme missionnaire, un héritage que devra assumer son successeur. Éric Sénanque, Rome. RFI.
Et RFI passe en édition spéciale juste après ce journal. On reviendra donc sur le pontificat du pape François. Je le rappelle, le Vatican vient de l'annoncer, la mort du pape François à 88 ans ce matin. En RDC, le pouvoir a pris une série de mesures contre l'ancien président Joseph Kabila. Kinshasa réagit après la visite de ce dernier à Goma vendredi, ville sous contrôle des rebelles du M23 soutenue par le Rwanda. Kinshasa a engagé des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila, a ordonné la saisie de ses biens ainsi que la suspension des activités de son parti, le PPRD. En cause, l'activisme avéré et l'attitude ambiguë de Joseph Kabila que Kinshasa accuse de collusion avec le M23. Des mesures préventives pour affaiblir le prédécesseur de Félix Tshisekedi, selon l'analyste Christian Ndombo-Moleka. Il est le coordinateur de la dynamique des politiques de RDC.
À ce stade, le gouvernement n'a pas présenté des éléments qui puissent étayer le rapprochement entre Kabila et M23, si ce n'est les déclarations du chef de l'État et de ses différents ministres. Quand on prend l'option, par exemple, de suspendre le parti PPRD parce que le président du PPRD a pris une position, c'est une mesure très forte. Est-ce que le parti est lié à la position de Kabila? Est-ce que quand on prend les biens, on saisit tous ces biens, est-ce que c'est à la suite d'un jugement? C'est une décision unilatérale du ministre de la Justice. Ce sont à la fois des leviers politiques difficilement justifiables d'un point de vue juridique quand on voit la procédure qui est mise en place, mais qui vise absolument à neutraliser un adversaire politique. On le sait, Kabila est dans une dynamique de retour, et de retour politique pour beaucoup d'affidés la famille du président actuel. Il faut en finir totalement avec lui, et donc ça peut être une stratégie de neutralisation politique d'un adversaire.
L'analyste Christian Ndombo-Moleka, coordinateur de la dynamique des politiques de RDC. En Ukraine, la trêve avec la Russie a pris fin cette nuit. Une trêve qui n'aura jamais vraiment commencé puisque les combats n'ont pas cessé ce week-end. Les deux pays se sont accusés mutuellement de violation de cessez-le-feu. La Russie avait annoncé unilatéralement une trêve pour le week-end pascal. De son côté, le président américain a déclaré hier sur son réseau Truth Social qu'il espérait un accord entre les deux pays dans la semaine. Son vice-président, J.D. Vance, est lui arrivé il y a quelques heures en Inde pour une visite de 4 jours. Il devrait rencontrer le premier ministre Narendra Modi pour signer un accord commercial bilatéral dans un contexte où la guerre commerciale s'intensifie entre les États-Unis et la Chine, principale rivale de l'Inde. À New York, Karine Auton.
C'est une visite diplomatique de grande importance pour les deux pays. Lors de sa visite à Washington il y a 2 mois, Narendra Modi avait commencé à discuter d'un méga partenariat commercial ainsi que des négociations pour limiter les répercussions des droits de douane imposés. Les deux pays ont en tout cas bien en tête de plus que doubler leurs échanges pour atteindre 500 milliards de dollars d'ici 2030 dans le cadre d'un accord commercial bilatéral. L'Inde est aussi un partenaire stratégique dans la lutte contre l'influence croissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Elle fait également partie du Quad, composé des États-Unis, de l'Inde, du Japon et de l'Australie, qui est vu comme un contrepoids. Enfin, Modi et Donald Trump se connaissent et ils ont établi de bonnes relations lors du premier mandat du président américain. Et maintenant que le président chinois souhaite positionner Pékin comme un partenaire commercial fiable en Asie, les deux dirigeants pourraient renforcer la coopération commerciale entre leurs pays. Enfin, New Delhi appréciera certainement particulièrement que l'épouse du vice-président soit la fille d'immigrants originaires du sud de l'Inde. Karine Auton, New York, RFI.
La Chine, de son côté, dit s'opposer fermement aux accords commerciaux nuisant à ses intérêts. Pékin dénonce aussi ce matin les pays qui pratiquent l'apaisement à l'égard de Washington. Le président français à Mayotte, 4 mois après le cyclone Chido, qui a fait 40 morts et 3,5 milliards d'euros de dégâts. Emmanuel Macron vient faire le point sur la reconstruction de l'archipel, l'entreconstruction avec une activité économique toujours paralysée. Il se rendra ensuite dans un autre département français de l'outre-mer, la Réunion, touchée en ce moment par une épidémie de chikungunya, ou du chic comme on le surnomme. Plus de 580 personnes ont été hospitalisées, dont plus d'une centaine d'enfants. Un afflux difficile à gérer, comme l'explique Lionel Calange, directeur général du CHU de la Réunion.
On a eu, à cause du chic, une augmentation du passage aux urgences de plus de 12% entre avril et mars. Cette crise sanitaire se rajoute à une crise capacitaire, en clair un nombre de lits insuffisant. Alors le CHU, il tient bon pour l'instant. On a dû, des impacts conjugués du chic et du cyclone, déprogrammer depuis un mois et demi plus de 300 patients. Le chic atteint également nos personnels. On a eu 540 soignants arrêtés pour cause de chikungunya. J'ai décidé d'activer un plan blanc il y a un peu plus de 15 jours. L'idée, c'est de s'adapter avec souplesse à la durée de l'épidémie. Il y a des lits d'hôpitaux de semaine qui ont été transformés en lits d'hospitalisation complète. Nous avons également renforcé le pool de remplacement. Nous n'avons pas de difficultés particulières à trouver des paramédicaux. On a plus de difficultés à trouver des médecins. On a eu déjà 3 renforts venus de l'Hexagone. Et on a eu un renfort qui est arrivé ce jeudi, qui nous a permis d'ouvrir cette unité de médecine d'aval des urgences supplémentaires. Mais nous avons demandé également 6 renforts supplémentaires. Nos équipes médicales attendent ces renforts dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.
Le directeur général du CHU de la Réunion avec Pauline Glaise. Le président français poursuivra donc sa tournée dans l'océan Indien à la Réunion après Mayotte. Il se rendra ensuite à Madagascar et sur l'île Maurice. Emmanuel Macron et son gouvernement qui avaient appelé au patriotisme économique face à la guerre commerciale de Donald Trump. Mais les grandes entreprises françaises n'ont pas vraiment entendu cet appel. Les frictions entre pouvoir économique et pouvoir politique se font de plus en plus ressentir, Alexis Bédu.
Un millefeuille administratif, la formule est de Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, qui pointe la lenteur du système français. Le directeur général de L'Oréal s'attaque, lui, aux réglementations, je cite, « trop handicapantes face à la concurrence chinoise et américaine ». Bernard Arnault en a également remis une couche il y a quelques jours. Pour le PDG du numéro 1 mondial du luxe LVMH, l'Union européenne est administrée par un pouvoir bureaucratique. Sur les droits de douane, il plaide pour des négociations à l'amiable entre Bruxelles et Washington. Beaucoup de critiques sans toutefois répondre à la demande d'Emmanuel Macron de suspendre leurs investissements aux États-Unis. Les industriels jouent leur partition sans suivre la ligne de l'Élysée. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, relativise ce dimanche. Ces désaccords ne seraient, je cite, qu'une discussion de vieux couple. Il en appelle toutefois au patriotisme des chefs d'entreprise. Si la bataille est perdue, dit-il, toute l'Europe sera perdante et son tissu économique aussi.
Alexis Bédu du service service économique de RFI. Et en ce lundi de Pâques, on l'a appris il y a quelques minutes, le Vatican a annoncé la mort du pape François à 88 ans. RFI passe dans quelques secondes en édition spéciale Lamoury Dosso.
Merci Marion Cazeneuve. C'était le journal international. Bien évidemment, vous l'aurez compris, hein, compte tenu de l'importance de cette information, votre émission Appel sur l'actualité n'aura pas lieu aujourd'hui. Néanmoins, on revient demain et bien évidemment, nous parlerons de la disparition du pape François.